19h, temps universel.
Washington, la voix de l'Amérique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Jean-Roger Billon à ce micro. Dans 5 minutes environ, le magazine de l'économie. En voici quelques titres. Selon Oxfam, les services publics comme la santé et l'éducation occupent une place centrale dans la lutte contre les inégalités.
L'accès à ces services publics est gratuit. Constitue une arme puissante qui permettrait de combattre les inégalités économiques qui sont croissantes.
Samira Daoub, coordinatrice de la campagne d'Oxfam International en Afrique de l'Ouest, elle nous en dira plus. L'accaparement des terres en Afrique, toujours d'actualité, notamment au Sénégal. Et on reviendra sur la stratégie de développement du Togo. Ces titres et d'autres seront développés tout à l'heure avec Camille Gros-Didier. Mais tout d'abord, un bulletin d'information. On va en République démocratique du Congo. Un train de marchandises a déraillé ce matin. Plusieurs dizaines de personnes sont mortes, en majorité des passagers qui étaient illégalement présents à bord du train. L'accident s'est produit à 65 km de Kamina, dans le Kantaga. La zone est marécageuse et difficile d'accès pour les secouristes. On écoute Jean Mozadi, le chef de la poste à Kontogola.
Le déraillement s'est effectué entre les tronçons Kassao vers Katongola. Donc c'est à peu près de 15 km de Katongola. Mais j'ai été sur place et après le déraillement, il y a eu déraillement. Donc il y a la loco qui s'est embourbée. La loco est dans le marin, même la cabouse. Il y a 12 wagons couchés, il y a 4 sur le rail. Ce que moi j'ai vu à mes propres yeux, c'était 31 morts. Et puis 55 blessés, ce que moi j'ai constaté. Quand on a demandé les gens qui étaient sur place, les passagers, ils disent que après ce qu'on sait, que c'est l'excès de vitesse.
Jean Mozadi, joint par Nicolas Pino. En Somalie, un deuxième député a été abattu en moins de 48 heures. Al-Shabaab n'a pas tardé à revendiquer l'assassinat d'Abdiaziz Isaac Mursal. Les insurgés islamistes affirment avoir tué le parlementaire par balle dans une embuscade ce mardi dans le district de Madina à Mogadiscio. Information confirmée par les autorités qui ajoutent que le politicien somalien est mort sur le coup. Cette attaque survient au lendemain de l'assassinat, toujours dans la capitale somalienne, d'un autre député, Isaac Mohamed Ibrahim, tué dans l'explosion d'une bombe fixée à sa voiture.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Joe Biden demande à la Russie de respecter le récent accord de Genève sur le règlement de la crise en Ukraine. Le vice-président américain a lancé son appel à Kiev en compagnie du premier ministre intérimaire Arseniy Yatsenyuk. Les précisions de Michel Joseph.
Pour M. Biden, la Russie doit cesser de parler et commencer à respecter ses engagements. Elle doit en particulier ne plus soutenir les forces séparatistes occupant des bâtiments gouvernementaux dans l'est de l'Ukraine. Les États-Unis sont pour une Ukraine une et indivisible et l'appuient dans cet effort, a déclaré M. Biden. Ainsi, 50 millions de dollars supplémentaires seront fournis à Kiev, dont 11 millions pour aider à financer l'élection présidentielle du 25 mai. Le premier ministre Yatsenyuk veut, lui, des investissements américains et européens dans le secteur énergétique. Cela permettrait à l'Ukraine de réduire sa dépendance envers le gaz naturel russe. M. Biden a promis l'assistance de son pays. Ici à Washington, la Maison-Blanche a annoncé ce mardi une aide militaire non létale de 8 millions de dollars à l'Ukraine, dont du matériel de communication et des véhicules.
En Corée du Sud, le bilan du naufrage de Séoul dépasse maintenant 100 morts alors que les sauveteurs continuent de repêcher des corps du vaisseau. Plus de 200 passagers portés disparus sont probablement morts. Près d'une semaine après l'accident, 17 corps ont été repêchés aujourd'hui. Selon les autorités, le bilan définitif pourrait atteindre environ 300 morts. Ce serait donc le pire accident de ferry en Corée du Sud en plus de 20 ans. Et la Corée du Nord serait-elle prête à effectuer un nouvel essai nucléaire? Les spécialistes le pensent. Certains analystes ont prédit un acte provocateur de la part du gouvernement communiste pendant la visite cette semaine en Corée du Sud du président Barack Obama. Et puis on termine avec la mort de l'écrivain mexicain. Des milliers de gens, y compris de grandes dignités, ont rendu hommage aujourd'hui à la mémoire du grand écrivain colombien, Gabriel García Márquez. Il est mort jeudi au Mexique à l'âge de 87 ans. García Márquez a remporté, vous le savez, le prix Nobel de littérature en 1982 pour son roman à succès « 100 ans de solitude ».
Thank you. Washington, Camille Grosdidier pour le magazine hebdomadaire de l'économie. Les titres tout d'abord. Selon Oxfam, les services publics comme la santé et l'éducation occupent une place centrale dans la lutte contre les inégalités.
L'accès à ces services publics est gratuit. Constitue une arme puissante qui permettrait de combattre les inégalités économiques qui sont croissantes.
Samira Daoud, coordinatrice de campagne d'Oxfam International en Afrique de l'Ouest, nous en dira davantage. L'accaparement des terres en Afrique, toujours d'actualité, notamment au Sénégal.
Tous les pays n'ont pas des cadastres tels qu'on les connaît dans les pays occidentaux. Dans le cas de Sénuil, c'est une histoire assez intéressante puisqu'en fait, le projet a été au départ donné par le précédent président qui a offert 20 000 hectares à cette entreprise.
Frédéric Mousseau de l'Institut Auckland évoquera la discorde entre la société Sénuil SA et les communautés affectées par ces plantations. Mais tout d'abord, le point sur la stratégie de développement du Togo. Le gouvernement togolais élabore sa stratégie de développement pour les 15 prochaines années. Le concept dénommé Vision Togo 2030 veut mettre à profit les atouts dont dispose le Togo pour en faire un pays émergent d'ici à 2030. De Lomé, on suit le reportage de notre correspondante Kay Lawson.
Faire du Togo un pays émergent dans 15 ans, tel est le nouvel objectif que se sont fixés les autorités togolaises. Baptisé Vision Togo 2030, c'est un concept qui consiste à élaborer un plan de développement du Togo à l'horizon 2030. Professeur Kakonu Boukba, ministre chargé de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques.
Pour le gouvernement, il s'agit de l'émergence du Togo. Dans le cadre d'une croissance forte, inclusive, créatrice d'emplois, et d'une démocratie exemplaire. Mais dans cet exercice de Vision Togo 2030, ce qui compte, c'est ce que pense l'ensemble des Togolais. Et c'est pour ça que nous pensons que le processus est aussi important que le produit. Et donc, il s'agira pour nous de faire en sorte que les Togolais parlent aux Togolais, au-delà des clivages politiques, des contingences électorales. Il faudra que nous construisions ensemble le Togo de demain, dans lequel toutes les filles et tous les fils du Togo puissent se reconnaître.
La première activité publique de Vision Togo 2030 s'est tenue les 15 et 16 avril dernier à Lomé. Il s'agit d'un séminaire de concertation des acteurs sur cette planification à long terme. Djogbé Lawson Hecheli, macroéconomiste au ministère chargé de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques à l'issue des deux jours de travaux.
Les deux jours de travaux avaient pour objectif de permettre à tous les acteurs d'imaginer le futur idéal pour notre cher pays, le Togo. Et cela nous a permis, tout ensemble, de mettre en place une feuille de route pour que dans les 15 ans à venir, le Togo soit un pays émergent. Donc ceci, ce n'est que le début du processus. Après, il y aura la mise en place du cadre institutionnel qui sera suivi de l'élaboration des scénarios. Et ces scénarios passeront du plus optimiste vers les scénarios les plus pessimistes. Si nous prenons le scénario le plus optimiste, par exemple, quel est le cadre idéal que nous voulons pour le pays en 2030? Maintenant, les scénarios les plus pessimistes nous permettra, en cas de rupture ou bien à partir des variables lourdes, là, de savoir ce qui pouvait advenir si ce genre de choses se produisaient.
Le Togo peut-il atteindre l'émergence en 2030? Voici le point de vue de Magaï Dia, le chargé de développement du secteur privé et du secteur financier pour la Banque mondiale au Togo.
Le Togo émergent en 2030 reste quelque chose qui est à portée de main. Le Togo, géographiquement pas très grand, aujourd'hui avec une population de 6 millions, des ressources naturelles, de la terre, de l'eau, et une position stratégique très enviable, un port qui marche très bien. Je pense qu'avec un cadre de politique cohérent, il est possible d'atteindre l'émergence en 2030.
Chacun a sa définition de l'émergence. Pour certains économistes, un pays émergent est celui qui a une croissance à deux chiffres. Mais pour le Premier ministre togolais, il faut y adjoindre la bonne gouvernance et le respect des libertés fondamentales. Artem Aoumezounou, lors de son discours de lancement de Vision Togo 2030.
La Vision 2030 doit continuer à aider notre pays à se hisser parmi les pays bien gouvernés et soucieux du bien et de la population. Certains diront les pays émergents, mais pour nous, l'émergence n'est qu'une étape, il n'est qu'un passage. ne saurait être un objectif final ni une fin en soi. Cette vision ne peut réussir que si elle offre aussi les garanties d'une protection des droits individuels et collectifs et des libertés publiques. Mais elle doit aussi donner les moyens à l'État de maintenir l'ordre public, de lutter contre les comportements libertaires qui sont autant d'entraves à la cohésion nationale et qui deviennent par voie de conséquence des comportements liberticides.
Ce processus enclenché se veut participatif tout en prenant en compte les secteurs prioritaires qui ont un réel impact sur l'amélioration des conditions de vie des Togolais. Kay Lawson, Lomé, pour La Voix de l'Amérique.
Ici Washington, La Voix de l'Amérique, Camille Grodivier qui vous accompagne pour cette édition du magazine hebdomadaire de l'économie. Dans un récent rapport, Oxfam affirme que les États peuvent réduire les inégalités en injectant un stimulus économique directement dans les poches de celles ou ceux qui en ont le plus besoin. Pour cela, ils doivent investir davantage dans des services publics tels que la santé et l'éducation, explique l'ONG. Ce rapport intitulé « Au service de la majorité » souligne que les services publics comme la santé et l'éducation occupe une place centrale dans la lutte contre les inégalités puisqu'il bénéficie à tous les membres de la société et surtout aux plus démunis. On écoute Madame Samira Daoud, coordinatrice de campagne d'Oxfam International en Afrique de l'Ouest.
On parle principalement des services de santé et d'éducation, mais on pourrait aussi étendre aux services d'accès à l'eau et à l'assainissement. Et notre rapport indique que l'accès à ces services publics et gratuits constitue une arme puissante qui permettrait de combattre les inégalités économiques qui sont croissantes et qui représentent aujourd'hui une menace à la fois pour l'économie et également qui nous prive de la possibilité de lutter efficacement contre la pauvreté dans les pays en développement.
C'est parce que, en fait, dans les pays en développement, les familles doivent consacrer des sommes considérables, notamment pour l'éducation.
Exactement. En fait, le rapport que nous avons produit commence par d'abord analyser la situation dans les pays de l'OCDE et montre que dans les pays de l'OCDE, les services publics représentent l'équivalent de 76% des revenus nets des populations qui ont les plus faibles revenus dans ces pays-là, contre à peine 14% de ceux des pays riches. Ce que ça veut dire, que le fait de pouvoir accéder gratuitement à des services publics de santé et d'éducation permet aux personnes qui ont les revenus les plus faibles d'économiser l'équivalent de 76% de leurs revenus nets. Et c'est une réalité qui existe donc dans les pays de l'OCDE, mais qui également existe dans les pays du Sud et parfois dans des proportions plus importantes. C'est-à-dire que le fait de devoir payer pour accéder à la santé, de devoir payer des écoles privées ou semi-privées pour permettre aux enfants d'avoir une bonne éducation, grève considérablement le budget des ménages les plus pauvres dans les pays du Sud, sachant que cela représente la majorité de la population de ces pays-là. Et donc, le fait de permettre à ces personnes-là d'accéder à des services publics et gratuits leur donne la possibilité de garder une partie de leurs revenus et de ne pas consacrer une majorité de leurs revenus à assurer l'accès à la santé et à l'éducation.
Que faire face aux inégalités ?
En fait, le constat que nous faisons, c'est que les inégalités sont de plus en plus importantes et c'est quelque chose qui est une menace et un problème pour l'économie, pour le développement et pour tout le travail qu'on fait dans les pays du Sud pour lutter efficacement contre la pauvreté. Mais il y a des solutions. Il y a les mauvaises solutions qui consistent à couper dans les dépenses publiques, qui consistent à imposer aux usagers de payer l'accès aux soins. La privatisation aussi. Là, nous avons sorti un rapport sur un hôpital au Lesotho qui a été construit dans le cadre d'un partenariat public-privé et dont le coût pour l'État représente la moitié du budget de la santé de l'État du Lesotho pour une population très limitée, c'est-à-dire uniquement la population de la capitale. Et donc, il y a des solutions qui sont envisagées face à cette situation. Et pour nous, les solutions qu'il faut absolument privilégier, à la fois pour lutter contre ces inégalités et pour permettre cet accès à la santé et à l'éducation pour tous, c'est déjà que les gouvernements respectent les engagements et les objectifs qui se sont fixés en termes d'allocation du budget à l'éducation et à la santé, 15% pour la santé, 20% pour l'éducation. Ce sont les engagements que les pays en développement avaient pris. Il est absolument fondamental que les gouvernements respectent ces engagements-là. C'est aussi que les pays donateurs appuient dans le cadre de leur politique d'aide au développement, ces politiques qui donnent la priorité aux dépenses publiques destinées aux services publics de santé et d'éducation. Et une des solutions très importantes, c'est de favoriser la mise en place de politiques fiscales justes et progressives, c'est-à-dire faire en sorte que, à la fois au niveau international, on lutte efficacement contre l'évasion fiscale, mais en même temps au niveau national, que l'on mette en place des politiques qui permettent de taxer équitablement les entreprises multinationales, par exemple, qui réalisent d'importants bénéfices dans les pays du Sud et qui souvent sont exonérées d'impôts parce qu'on a considéré que c'était une manière d'attirer l'investissement, mais avec au final des retombées financières en termes d'emploi, etc., qui sont très minimes. Et donc, il y a différents moyens de à la fois de réduire ces inégalités et de permettre un accès au plus grand nombre aux services de santé et d'éducation, sachant que pour nous c'est un cercle vertueux, c'est-à-dire que plus on va favoriser l'accès à des services gratuits de santé et d'éducation, plus on réduit les inégalités et donc plus la croissance est durable, le développement peut vraiment se mettre en place, etc.
Madame Samira Daoub, coordinatrice de campagne d'Oxfam International en Afrique de l'Ouest, elle était jointe au Sénégal. Camille Grosdidier, vous êtes à l'écoute du magazine hebdomadaire de l'économie de La Voix de l'Amérique. L'accaparement des terres en Afrique, toujours d'actualité, notamment au Sénégal, où un collectif d'ONG dénonce la mainmise d'une société sénégalo-italienne, Sanuil SA, sur la réserve naturelle de Ndiaël. Sanuil SA s'est vu accorder 20 000 hectares de la réserve par l'État sénégalais sous l'administration de l'ex-président Abdoulaye Wade. Les habitants de 37 villages contestent le projet, disant qu'il les prive d'accès à leur pâturage et aux sources de nourriture, d'eau et de bois de chauffage. On revient sur la controverse avec Frédéric Mousseau de l'Institut Auckland, l'une des ONG qui proteste contre le projet Sanuil SA.
De ce qu'on a appris récemment, l'entreprise continue de mettre en œuvre ce projet suite à la communication des ONG, mais aussi des communautés locales qui s'opposent très clairement au projet. L'entreprise a développé toute une panoplie d'informations disant que les officiels locaux ont signé des documents, disant que les communautés locales soutiennent le projet. Donc on a en fait un contre-feu allumé par l'entreprise et quelques officiels locaux pour faire croire que ce projet retrouve l'agrément des populations locales, alors que c'est faux, et on continue de lutter contre cet accaparement de terres, de 20 000 hectares de terres au Sénégal.
Ce problème au Sénégal avec la société Sanuil, on l'a déjà vu au Cameroun avec la société Héraclès, on le voit à travers tout l'ensemble du continent, mais les pays concernés ont quand même des cadastres. Qu'est-ce qui est arrivé à ces cadastres? On devrait quand même connaître à qui revient la propriété de ces terres.
Tous les pays n'ont pas des cadastres tels qu'on les connaît dans les pays occidentaux. Dans le cas de Sanuil, c'est une histoire assez intéressante puisqu'en fait, le projet a été au départ donné par le précédent président qui a offert 20 000 hectares à cette entreprise et l'a offert au départ dans un autre endroit, à Fanaï, sur des terres villageoises. Et là, on a eu, c'était il y a 3 ans, on a eu déjà une forte opposition avec plusieurs blessés et même des morts lors de manifestations contre le projet. Et suite à ces événements, le président a délocalisé le projet, donc a trouvé 20 000 hectares ailleurs pour satisfaire cette entreprise. Et cette fois-ci, il pensait avoir trouvé l'endroit idéal puisqu'il s'agissait d'une réserve naturelle. Donc sous contrôle de l'État et sur lesquels les populations locales n'avaient pas de titre officiel. Mais ceci étant dit, ce qui se passe avec cette réserve, c'est que c'est une réserve qui, depuis plusieurs décennies, a été donnée à des populations d'éleveurs qui, effectivement, ne cultivent pas les terres, mais les utilisent, et c'est une utilisation vitale pour leur subsistance, en termes de pâturage, d'accès à l'eau, d'accès au bois, d'accès à toutes sortes de nourriture et de produits de cette réserve. Et aujourd'hui, en donnant ces terres à cette entreprise, on n'utilise pas des terres qui sont sous titre de propriété de villageois, mais on utilise bien les terres dont dépendent plus de 9000 personnes dans plus de 30 villages qui vivent sur ces terres.
À long terme, la solution pour les pays africains n'est-il pas d'assainir, pour ainsi dire, les titres de propriété et de mettre en place des cadastres bien fixes?
C'est la solution que nous proposent des organisations internationales comme la Banque mondiale ou certains pays occidentaux qui veulent en fait reproduire, par exemple au Sénégal, le modèle français avec des titres de propriété privée sur les terres. Nous, ce qu'on pense, à l'instar de nombreuses organisations paysannes africaines, c'est que ce n'est pas nécessairement la bonne solution, parce que ce n'est pas en privatisant la terre qui est un bien commun pour de nombreuses populations, et notamment dans ce cas-là, des éleveurs qui ont un usage extensif des terres, disons qu'elles ne connaissent pas la propriété privée de la terre, mais l'utilisent de façon collective. On pense que privatiser les terres et les donner à des individus risque finalement de renforcer le problème, puisque du coup, on ferait des terres un produit qui pourrait être vendu beaucoup plus facilement qu'elles le sont aujourd'hui. Alors, mettre en place des systèmes pour sécuriser les droits fonciers des populations rurales locales sont très importantes. Maintenant, est-ce qu'il s'agit d'un cadastre de titres de propriété individuelle? Nous n'en sommes pas sûrs du tout. Nous pensons au contraire qu'on peut travailler sur des systèmes qui reconnaissent les droits des populations locales sans nécessairement les privatiser et faire de la terre des marchandises. Et on a des exemples de systèmes où des zones sont reconnues comme étant sous le contrôle ou essentiel à des communautés. Et dans ce cadre-là, les droits de ces communautés devraient être protégés. Malheureusement, aujourd'hui, effectivement, dans beaucoup de pays, les populations doivent lutter de façon souvent féroce pour pouvoir préserver leurs droits et ils sont très peu reconnus officiellement. Malheureusement, au Sénégal, comme dans beaucoup d'autres pays africains, encore une fois, on nous vend ces projets d'investissement comme la solution pour le développement. Ce qu'on regrette énormément et ce que regrettent les organisations paysannes, les communautés locales, c'est qu'elles ont énormément d'idées, de demandes pour pouvoir se développer, pour pouvoir améliorer leurs conditions de vie, améliorer leur production, améliorer leur accès au marché, et qu'au lieu de les écouter et d'investir dans leurs propres demandes et répondre à leurs besoins, on prend tout simplement les terres pour les donner à des entreprises étrangères, souvent comme c'est le cas ici, qui sont avec des intérêts internationaux qu'on n'arrive même pas à reconnaître. Donc, encore une fois, on marche sur la tête et on s'interroge vraiment sur ce qui pousse des présidents, dans ce cas-là, africains, à faire des tels choix aux dépens de leurs citoyens.
Monsieur Frédéric Mousseau de l'Institut Auckland, l'une des ONG qui proteste contre le projet Sunwheel SA. Sur son site internet, Sunwheel a posté un article sur l'accord de cohabitation pacifique signé par la société avec les habitants des villages voisins du projet. Cet article évoque l'engagement de la Sunwheel à effectuer des infrastructures sanitaires, scolaires, à respecter la liberté de mouvement du bétail, etc. Sunwheel s'engage aussi à établir des couloirs pour faciliter les déplacements du bétail entre les pâturages naturels et les périmètres fourragers sécurisés, à mettre à la disposition des éleveurs qui en assurent la gestion, poursuit l'article. De même, la société va aménager des zones de culture pour les villages environnants à raison de 3000 mètres carrés par famille. Camille Grosdidier pour le magazine hebdomadaire de l'économie. Vous êtes à l'écoute de La Voix de l'Amérique. La Guinée équatoriale, Eldorado des hydrocarbures, attire des travailleurs de toute l'Afrique, mais également de l'Europe et de l'Amérique latine, sans oublier la Chine. Jacques Aristide.
Sur l'île de Bioko, à quelques encablures de Malabo, la capitale, le complexe de Punta Europa a fait de la Guinée équatoriale l'un des principaux producteurs de pétrole et gaz d'Afrique subsaharienne. Cela fait 7 ans qu'il a été inauguré, près d'une décennie après la découverte de vastes réserves de gaz et de pétrole dans les eaux territoriales du pays. De nos jours, le complexe produit 400 000 barils par jour de brut, sans compter le gaz naturel liquéfié, le gaz de pétrole liquéfié, le méthanol, propane et butane, entre autres. Il comprend également une usine d'embouteillage du gaz destiné à la consommation locale et au fonctionnement de la centrale électrique nationale de Malabo.
C'est la deuxième usine au monde, comparable à celle des États-Unis d'Amérique.
Jean Essonneau, un ingénieur originaire du Cameroun, arrivé en Guinée équatoriale il y a 4 ans pour travailler dans l'usine de gaz. Sur 300 employés, on recense 230 étrangers. Il faut dire que la Guinée équatoriale compte moins d'un million d'habitants, alors que l'exploitation des hydrocarbures a transformé l'île de Bioko en vaste chantier. Marx Oliveder a confié à la Voix de l'Amérique qu'il a quitté son pays natal, le Brésil, après avoir constaté que la Guinée équatoriale offre toutes sortes de possibilités d'emploi. Les investissements ne concernent pas seulement le secteur des hydrocarbures, fait-il valoir, mais les travaux d'infrastructures se multiplient, sans oublier l'agriculture ou encore le secteur de la santé. À preuve, le PIB de la Guinée équatoriale est aujourd'hui le plus élevé d'Afrique, chiffré par la Banque mondiale à plus de 24 000 dollars par habitant. Mariano Essumo, chef coutumier de Ngam Mesok, près du port de Bata, évoque une véritable révolution.
Vous voyez, on ne connaissait pas la Guinée équatoriale. Et au jour d'aujourd'hui, vous pouvez voir le nombre de travaux que le chef de l'État est en train de faire. Nous avons des routes ici et il y a l'eau. L'électricité, il y en a aussi. Les Chinois sont en train de faire des grands travaux parce que c'est son pari qu'il a dit d'ici 2020, tout le monde doit en avoir.
Il n'en reste pas moins que côté politique, on est loin d'une autre révolution. Le président Teodoro Obiang Nguema ayant pris le pouvoir qu'il conserve d'une main de fer depuis près de 35 ans. Par ailleurs, nombre d'habitants se plaignent des maigres retombées de cette manne pétrolière. Ovam Didi, un infirmier formé au Nigeria, se plaint de ne pas trouver du travail. La majorité des habitants du pays sont très pauvres, dit-il, alors que le régime gaspille des sommes colossales dans les infrastructures. Encore faudrait-il donner priorité aux besoins élémentaires des populations. Les statistiques de la Banque mondiale sont révélatrices. 76% de la population équato-guinéenne est pauvre et 40% des habitants des zones rurales n'ont pas accès à l'eau potable. Pour le leader du parti d'opposition Convergence pour la démocratie sociale, CPDS, Andreas Essonneau, il est clair que le pays reste une dictature où la liberté d'expression est menacée.
Ici Washington, la Voix de l'Amérique, vous suivez le magazine de l'économie. Le Congo, Brazzaville, pays producteur de pétrole, s'attend cette année à une nette remontée de sa production en chute depuis 2012. Et ceci grâce à la mise en exploitation de nouveaux gisements. Mais sur le marché local, les populations peinent à se ravitailler en produits pétroliers, alors même que le pétrole est devenu une vraie alternative aux coupures de courant. De Brazzaville, je vous propose le reportage de notre correspondant Nguela Ngoussou.
Les 95 millions de barils de brut attendus cette année au Congo-Brazzaville pourront constituer un espoir pour des millions de consommateurs locaux qui n'ont toujours pas de pétrole lampant.
C'est le pétrole qui est rare, même la livraison, on livre le pétrole, c'est des périodes, mais qui ne sont pas respectées. Donc aujourd'hui on peut livrer, il faut encore attendre plusieurs mois pour, par exemple pour qu'on livre.
Maman m'a commandé acheter du pétrole, mais comme il n'y en a pas, je veux lui rendre son argent. Comme il fait soir, je ne sais pas comment faire mes devoirs.
Le pétrole lampant et le gaz, aujourd'hui des panacées aux coupures intempestives d'électricité, manquent toujours dans les points de vente. Certains vendeurs dans les stations-service et d'autres commerçants à la cité ont constitué des réseaux de spéculation et de surenchère du pétrole lampant.
C'est devenu un réseau. C'est les pompistes revendent le pétrole, mais les prix sont fixés par eux-mêmes. Généralement, soit c'est les hommes politiques qui achètent déjà des sternes, et au niveau de la station, c'est quelques litres qui arrivent. Et lorsqu'on revend, pas tout le monde, quoi, qui généralement c'est difficile, qu'il accède au pétrole.
La réalité, c'est que 41% des produits pétroliers consommés au Congo-Brazzaville viennent de l'étranger. La raffinerie congolaise n'est toujours pas au mieux de ses capacités depuis une décennie. Elle ne produit encore que 850 000 tonnes dans une masse de besoin de près de 2 millions de tonnes. Nguela Ngoussou, Brazzaville, la voix de l'Amérique.
Voilà, ainsi s'achève cette édition du magazine hebdomadaire de l'économie de la Voix de l'Amérique. Au micro, Camille Grosdidier, qui vous remercie de l'avoir suivi.